Les rendez-vous civils, un podcast pour mieux comprendre la jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation.
Après la chambre sociale de la Cour de cassation, puis sa chambre criminelle, il était temps que les chambres civiles utilisent un outil de communication, le podcast, qui leur permette de présenter leurs décisions sous cette nouvelle forme orale et, j'y reviendrai, à plusieurs voix. C'est la première chambre civile de la Cour de cassation qui se met donc dans le chemin tracé par les chambres que je viens de citer pour contribuer à son tour, avec cette nouvelle forme de communication, à la mise en œuvre d'une volonté de la Cour tout entière, exprimée par son premier président lors de nos audiences solennelles, qui est celle de mieux faire comprendre les décisions qu'elle rend. Mieux se faire comprendre, c'est un devoir pour la Cour de cassation qui rend, comme toute l'institution judiciaire au sommet duquel elle se trouve, des décisions au nom du peuple français. Car comment inspirer confiance si l'on ne se fait pas comprendre? Et comment être légitime si l'on n'inspire pas confiance? C'est une difficulté de la justice d'arriver à se faire comprendre, et elle n'est pas nouvelle, on en parle depuis l'Antiquité. Cette difficulté a de multiples causes. Le droit est complexe, et il l'est de plus en plus, car notre monde et nos sociétés le sont également de façon croissante. Il manie des concepts théoriques, ainsi que des principes internationaux ou nationaux. Il a pour source la loi française, mais aussi les règlements et décisions de l'Union européenne, ainsi que des conventions internationales. Il se pratique dans une organisation institutionnelle qui est elle-même souvent délicate à se figurer. Son vocabulaire est technique, et il n'a pas toujours le même sens que dans la vie courante. Et pourtant, les enjeux de l'application du droit sont, collectivement ou individuellement, très importants, et il est donc essentiel de les mesurer et de les partager. C'est pourquoi, ces écueils que j'ai évoqués, nous voulons tenter de les surmonter et, après d'autres outils que la première chambre civile utilise pour présenter ses décisions, comme par exemple sa lettre trimestrielle, ou des communiqués de presse, comme ce fut le cas récemment pour présenter des décisions relatives à la gestation pour autrui, le podcast nous donne l'opportunité, que nous avons donc saisie, avec l'aide du service de communication de la Cour et notamment Guillaume Fradin, que je remercie pour son accompagnement, pour expliquer le plus simplement possible, mais avec précision et rigueur, nos décisions. Bien sûr, c'est d'abord au stade de la rédaction que nous nous efforçons de motiver nos arrêts avec clarté. La motivation, c'est une obligation faite à tout juge, et donc au juge de cassation également. Elle est depuis quelques années maintenant plus accessible, car plus lisible, et souvent plus développée qu'autrefois. Mais la lecture des arrêts reste encore souvent aride, et nécessairement moins vivante qu'une présentation orale de la solution donnée par la première chambre civile aux questions qui lui sont soumises. Par la voie d'un podcast, la première chambre civile souhaite ainsi s'adresser, au-delà de la communauté des juristes, que sont les étudiants en droit, les professeurs, les avocats, et bien sûr nos collègues des juridictions, à un plus large public qui est concerné ou qui peut se sentir concerné par les décisions de cette chambre et qui veut pouvoir les comprendre. Ainsi, nous proposons à nos auditeurs, à travers la réalisation de ce que nous appellerons les rendez-vous civils, de disposer du moyen de savoir comment est interprétée et appliquée la loi dans tel ou tel domaine. Ces rendez-vous seront en principe trimestriels. Nous avons choisi pour ce premier numéro de présenter non pas un arrêt en particulier, mais une matière pour dresser un panorama le plus complet possible de la jurisprudence sur le thème choisi, ce qui amènera à évoquer plusieurs décisions. Nos auditeurs pourront ainsi disposer sur le thème en question d'un bagage léger, mais solide, leur permettant un voyage que j'espère éclairant dans un territoire du droit souvent évoqué dans l'actualité quotidienne. Cela nous offrira aussi l'opportunité de présenter le rôle de la Cour de cassation, car le sujet que nous avons retenu montrera différents aspects de ce rôle, ainsi que le dialogue de la Cour de cassation avec d'autres juridictions nationales ou internationales. Avant de laisser la parole à mes collègues, je voulais revenir au fait que vous alliez entendre plusieurs voix. Ce n'est pas seulement dans le but de captiver mieux nos auditeurs et de favoriser leur attention. C'est aussi une façon de faire entendre et comprendre que nos décisions sont toujours collégiales et le fruit d'un travail à la fois individuel et collectif. Quatre magistrats de la première chambre civile, Benoît Mornay, Charlotte de Cabarrus, Anne-Gaëlle Dumas et Anne Fédot-Thieffry vont s'exprimer au nom de la Chambre, qui les remercie à travers moi, d'avoir accepté de joindre leur voix pour réaliser ce premier podcast de la première chambre civile de la Cour de cassation sur le thème, je vous le dévoile enfin, du contentieux de la rétention administrative et du placement en zone d'attente des étrangers.
Bonjour à tous. Comme vient de vous l'annoncer Carole Champalone, présidente de la première chambre civile, aujourd'hui, nous allons vous présenter le premier podcast des rendez-vous civils. Avec nos invités, Benoît Mornay, conseiller à la Cour de cassation.
Bonjour Charlotte.
Anne Fédot-Thieffry, conseillère référendaire.
Bonjour.
Et Anne-Gaëlle Dumas, conseillère référendaire.
Bonjour.
Pour ce premier podcast, pourquoi avoir choisi le contentieux des étrangers ?
Le choix n'était pas facile. Tant la première chambre civile traite de contentieux extrêmement diversifiés, allant du droit des contrats au droit de la famille, en passant par le droit international privé, l'arbitrage ou le droit de la santé. Mais le contentieux des étrangers, qui comprend à la fois la problématique de la rétention administrative et celle de la zone d'attente, s'est rapidement imposé pour ouvrir la série de podcasts à venir. Il s'agit en effet d'une matière technique et complexe qui conduit à appliquer le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'on appelle plus couramment CESEDA, mais également des règles de procédure civile, de procédure pénale et de droit administratif. C'est par ailleurs une matière qui connaît une forte production législative, puisque depuis 2003, on compte une réforme quasiment tous les deux ans, la dernière en date étant la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration du 26 janvier 2024. Dans ce contexte de complexité et de changement fréquent de la loi, l'Office de la Cour de cassation, qui est d'assurer une interprétation uniforme du droit pour toute la République, est particulièrement sollicité. Il nous a donc paru important de donner des éléments clés de compréhension de la jurisprudence en ce domaine, qui se situe au carrefour de la protection de la liberté individuelle garantie par la Constitution et de celle des intérêts de la société recherchés par le législateur.
Anne-Gaëlle, peux-tu nous rappeler la différence entre la rétention administrative et la zone d'attente ?
Le placement en rétention administrative concerne l'étranger qui se trouve sur le territoire français en situation irrégulière, qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité administrative, comme par exemple une obligation de quitter le territoire français, appelée plus communément OQTF, et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de fuite. L'étranger est alors placé dans un centre de rétention administrative le temps que l'administration accomplisse les diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Le placement en zone d'attente, quant à lui, concerne l'étranger qui n'est pas encore sur le territoire français, qui souhaite y pénétrer mais qui fait l'objet d'une décision de refus d'entrée au motif qu'il n'est pas muni des documents exigés ou qu'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire, soit parce que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, soit parce qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction. L'étranger est alors placé, le temps d'organiser son départ, dans des locaux qui peuvent être situés, suivant les cas, aux abords d'une gare ouverte au trafic international, d'un aéroport ou d'un port, la loi prévoyant également la possibilité de créer des zones d'attente temporaires en cas d'arrivée d'un groupe d'au moins 10 étrangers en dehors d'un point de passage frontalier.
Mais pour quelles raisons le juge judiciaire intervient-il dans ce domaine qui relève de la police administrative ?
Il est exact que le placement en rétention ou en zone d'attente correspond à une mesure de police administrative, en ce sens qu'elles sont prises par une autorité administrative pour l'exécution d'une décision d'éloignement ou d'une décision de refus d'entrée sur le territoire, qui sont également des décisions prises par l'administration. Mais il a surtout pour effet de priver l'étranger de sa liberté. Or, on sait que l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que nul ne peut être arbitrairement détenu et que l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel juge de manière constante que même si une mesure de privation de liberté peut être prononcée à l'initiative d'une autorité administrative, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge judiciaire intervient dans le plus court délai possible. Les textes du CESEDA prévoient donc la saisine par l'autorité administrative du juge judiciaire suivant un séquençage très précis. Rappelons par ailleurs que la décision du juge est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou, si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite et que cet appel est porté devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les règles sont-elles les mêmes en matière de rétention administrative et de zone d'attente ?
Si les règles de procédure devant le juge ou le premier président présentent de fortes similarités, les conditions de prolongation des mesures et l'office du juge sont spécifiques. Ainsi, en matière de rétention administrative, le CESEDA prévoit que le juge peut être saisi à 4 reprises, la durée totale de la mesure ne pouvant excéder 90 jours. À noter qu'il existe des dispositions particulières applicables à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. Le nombre de saisines possibles du juge est alors porté à 8 et la durée maximale de la rétention à 180 jours. Concernant la zone d'attente, le Code autorise seulement 2 prolongations par le juge qui peuvent porter la durée totale de la mesure à 20 jours. Par ailleurs, si le juge est amené à contrôler l'effectivité des droits dont bénéficie l'étranger, qu'il soit au centre de rétention ou en zone d'attente, l'office du juge n'est pas le même dans les deux cas. En effet, en matière de rétention administrative, le rôle du juge s'est considérablement élargi au fil du temps. Sous l'impulsion de la jurisprudence d'abord, puisque la Cour de cassation énonce depuis 1995 qu'il appartient au juge judiciaire de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle sur l'irrégularité invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention, telles le contrôle d'identité ou la garde à vue. Et sous l'impulsion de la loi ensuite, puisque la loi du 7 mars 2016 a confié au juge judiciaire le contentieux relatif à la décision de placement en rétention, étant précisé que les contestations portant sur la décision de placement en zone d'attente restent de la compétence du juge administratif. Mais je souligne une règle de fond commune. Lorsqu'il invoque la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation d'une formalité substantielle pour obtenir la main levée de la mesure, l'étranger doit rapporter la preuve d'un grief.
Le contentieux des étrangers présente, je crois, des particularités quant au rôle de la Cour de cassation.
C'est exact. En cette matière, le rôle de la Cour de cassation consiste exclusivement à unifier la jurisprudence, puisque lorsqu'elle statue, la mesure de rétention administrative ou de placement en zone d'attente, compte tenu des délais maximum prévus par la loi, a nécessairement pris fin, de sorte que la décision qui est rendue n'a pas d'incidence sur la situation de l'étranger concerné par le pourvoi. Et c'est la raison pour laquelle, si une cassation intervient, elle est toujours prononcée sans renvoi. La situation de l'étranger qui a formé le pourvoi ne sera donc pas revue, mais l'interprétation donnée à la loi par la Cour de cassation détermine ainsi les règles applicables par les juges judiciaires pour tous les étrangers placés dans la même situation.
Il vient d'être indiqué que le juge judiciaire, en matière de rétention administrative, pouvait être amené à contrôler la procédure préalable au placement en rétention. Benoît, peux-tu nous donner une illustration de ce contrôle ?
J'aimerais d'abord souligner que le juge n'a à faire ce contrôle, si des critiques lui sont soumises, qu'à l'occasion de l'instance en première prolongation. En effet, si l'étranger critique ce qui s'est passé avant le placement en rétention, la jurisprudence considère cela comme une exception de procédure qui doit être invoquée avant toute défense au fond et ne peut donc pas l'être pour la première fois en appel ni à l'occasion des autres prolongations. Il s'agit ainsi d'éviter des critiques dilatoires. Rappelons que le placement en rétention peut intervenir après l'interpellation de l'étranger, qui peut donner lieu à un contrôle d'identité et ou à un contrôle des titres de séjour, après une mesure de garde à vue, après une mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, ou encore après une période d'incarcération. Les principales contestations dont peut être saisi le juge judiciaire portent sur les conditions de validité du contrôle d'identité et des titres de séjour, de la garde à vue ou de la retenue. La première chambre civile a rendu de très nombreux arrêts en la matière. J'en citerai un, rendu récemment le 14 juin 2023. Dans cette affaire, un étranger avait fait l'objet d'une interpellation dans les locaux de la préfecture, alors qu'il se rendait à une convocation pour procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile expirée, et cette convocation ne comportait aucune information sur le risque de placement en rétention administrative. La Cour a considéré que l'interpellation pouvait être considérée comme déloyale au visa notamment de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et cet arrêt s'inscrit dans une jurisprudence bien établie, qui s'est développée dans le prolongement d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 février 2002, dont il ressort qu'il y a procédé déloyal de la part de l'administration lorsque celle-ci use d'un stratagème délibérément trompeur. Tel n'est pas le cas si l'étranger se rend à une convocation de la préfecture en pleine connaissance de la possibilité que lui soit notifié un placement en rétention.
Anne, tu as dit que depuis la loi du 7 mars 2016, le juge judiciaire était compétent pour statuer sur les contestations portant sur la décision de placement en rétention. Peux-tu évoquer quelques décisions récentes de la première chambre civile ?
Je rappellerai tout d'abord que pour trancher ce type de question, le juge doit être saisi par l'étranger d'une requête contestant la régularité de la décision de placement en rétention. Cette requête doit être, depuis le 15 juillet 2024, formée dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la décision administrative et non plus de 48 heures comme avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. Les contestations vont pouvoir porter soit sur la légalité externe de la décision, comme les vices de forme relatifs à la présentation extérieure de l'acte, à la compétence de l'auteur de l'acte ou à la réalité de la motivation, soit sur la légalité interne, et il s'agit alors de remettre en cause le bien fondé de la décision. D'abord, à titre d'exemple, s'agissant de la légalité interne, les griefs vont souvent concerner la mesure d'éloignement que la mesure de rétention doit servir à exécuter. C'est l'occasion de rappeler qu'en vertu de l'article L741-1 du CESEDA, qui renvoie à l'article L731-1, l'OQTF, mesure d'éloignement la plus courante, doit, pour fonder valablement un placement rétention, ne pas être ancienne de plus de 3 ans. Le délai était d'un an avant la loi immigration du 26 janvier 2024. L'OQTF est souvent assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français. Or, la première chambre civile, à plusieurs reprises, et en particulier les 17 novembre 2021 et 8 mars 2023, a jugé, dans la continuité d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 26 juillet 2017, qu'un étranger ne pouvait pas être placé en rétention administrative sur le fondement d'une interdiction de retour sur le territoire français, alors que l'OQTF, qui datait de plus d'un an, durée alors maximale, n'avait pas été exécuté. Ensuite, je souhaitais également appeler l'attention sur un arrêt rendu le 15 novembre 2023, qui a donné l'occasion à la première chambre civile d'articuler le contentieux des étrangers avec le droit des incapacités. Dans cette affaire, l'étranger placé en rétention souffrait de graves troubles psychiatriques ayant conduit au prononcé d'une mesure de curatelle renforcée. La Cour de cassation a jugé que, dès lors qu'elle disposait d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention faisait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, il incombait à l'autorité administrative d'informer du placement la personne chargée de cette mesure afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement. En l'occurrence, le préfet disposait des éléments lui permettant de savoir que l'étranger faisait l'objet d'une mesure de protection puisque cette information figurait dans un procès-verbal de police auquel l'arrêté de placement en rétention faisait référence. Enfin, Il me paraît important de signaler un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 8 novembre 2022, dont il ressort que l'autorité judiciaire doit, je cite, « relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne étrangère. » Mais la Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion de préciser les contours de cette obligation qui pèse sur le juge.
La mesure de rétention peut faire l'objet de plusieurs prolongations de la part du juge. Sur quelle décision, Anne-Gaëlle, souhaites-tu attirer l'attention ?
Tout d'abord, il est important de rappeler que la décision de placement en rétention a, depuis le 15 juillet 2024, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 relative à cette question, une durée initiale de 4 jours. La durée était, avant ce texte, de 48 heures. Et que le juge doit être saisi pour la première fois avant l'expiration de ce délai. S'il accorde la prolongation, celle-ci aura une durée de 26 jours. 3 autres prolongations sont possibles, la première pour 30 jours et les suivantes pour 15 jours chacune. Plusieurs décisions ont été rendues concernant les 3e et 4e prolongations, lesquelles répondent aux mêmes conditions énoncées à l'article L742-5 du CESEDA. Je rappellerai que cet article prévoit différents cas de figure permettant à l'autorité administrative de saisir le juge après 2 prolongations. Les premiers sont liés au comportement de l'étranger lui-même. Il s'agit de l'obstruction de l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement ou de la présentation d'une demande d'asile tardive ou dilatoire. Le dernier n'est pas imputable à l'étranger. Il s'agit du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, à la condition que l'administration établisse que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Parce qu'il s'agit d'une mesure privative de liberté, et compte tenu des termes mêmes de l'article L742-5, qui se réfère expressément au caractère exceptionnel de la saisine du juge, la première chambre civile a adopté une interprétation stricte de ce texte. Tout d'abord, cet article prévoit que les différents cas de figure doivent être apparus dans les 15 derniers jours. Ainsi, le 23 juin 2021, la première chambre civile a jugé que le refus d'embarquement opposé par l'étranger antérieurement au délai de 15 jours ne pouvait constituer une obstruction permettant de saisir le juge d'une demande de troisième prolongation de la rétention. Par ailleurs, retenant le caractère limitatif des cas de figure prévus à l'article L742-5, elle a décidé les 5 octobre 2022 et 5 juillet 2023 que l'absence de moyens de transport ne pouvait pas justifier une troisième prolongation. En outre, elle s'est prononcée sur la notion d'obstruction à la mesure d'éloignement. Elle a reconnu cette qualification au refus de se soumettre à un test PCR de dépistage de la COVID-19, sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées, mais l'a écartée s'agissant de la présentation d'un document d'identité ou de voyage qui n'est plus en cours de validité. Enfin, la première chambre civile, le 23 juin 2021, a jugé que, lorsqu'il était saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention pour le motif de défaut de délivrance par le consulat des documents de voyage, le juge devait rechercher si l'autorité administrative établissait que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai. À noter que la loi immigration du 26 janvier 2024 a ajouté 2 nouvelles hypothèses pour les 3e et 4e prolongations. L'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Un pourvoi, actuellement en cours d'instruction, invite la première chambre civile à se prononcer sur les conditions d'appréciation de la menace pour l'ordre public.
Et qu'en est-il du contentieux de la zone d'attente ? Quel arrêt, Benoît, souhaiterais-tu mettre en évidence ?
Je citerai un arrêt rendu le 9 février 2022, dans lequel nous avons retenu que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'entrée en vigueur et la légalité de l'arrêté préfectoral créant la zone d'attente temporaire. D'ailleurs, il a été jugé que l'arrêté préfectoral portant création d'une zone d'attente, qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constituait pas une pièce justificative utile devant accompagner la requête saisissant le juge. Autrement dit, l'étranger ne peut pas demander au juge de mettre fin à son placement en zone d'attente au seul motif que cet arrêté ne figure pas dans le dossier.
Le partage de compétences entre juge judiciaire et juge administratif est une question délicate. Anne, peux-tu nous en donner quelques illustrations ?
En effet, le contentieux des étrangers fait intervenir à la fois le juge administratif et le juge judiciaire. Par plusieurs arrêts, la première chambre civile a tranché en faveur d'une lecture stricte de la compétence du juge judiciaire, excluant le contrôle de la légalité des décisions administratives autres que la régularité de la décision de placement en rétention. Ainsi, en matière de rétention administrative, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur des contestations qui porteraient sur la régularité de la mesure d'éloignement. En matière de zone d'attente, il n'a pas davantage compétence pour contrôler la légalité de la décision de refus d'admission sur le territoire français, ni même la décision de placement en zone d'attente, aucun transfert de compétences n'ayant été opéré, contrairement à ce qui s'est passé pour la décision de placement en rétention. La Cour de cassation entend donc faire respecter le principe de la séparation des pouvoirs.
J'imagine que la première chambre civile a rendu des décisions qui concernent la procédure suivie devant le juge ou le premier président.
Effectivement. Tout d'abord, les textes applicables prévoient que les requêtes de l'administration pour faire prolonger la rétention soient accompagnées de pièces justificatives utiles. Cela donne lieu à de nombreuses contestations par les étrangers requérants et donc à une jurisprudence abondante dont l'esprit peut être résumé ainsi. Les pièces utiles sont celles, et seulement celles, qui permettent au juge de vérifier que les garanties que la loi a prévues pour le respect des droits des étrangers ont été effectivement assurées. À titre d'exemple, le 18 octobre 2023, la première chambre civile a jugé que la requête en deuxième prolongation devait être accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention. En effet, il résulte de l'article L743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer, lors de l'examen de chaque demande de prolongation de la mesure, que depuis sa précédente présentation, l'étranger a été placé en mesure de faire valoir ses droits et le registre, dès lors qu'il est actualisé, lui permet d'opérer ce contrôle. Par ailleurs, attardons-nous un instant sur une garantie essentielle reconnue à l'étranger pendant l'audience, celle de l'assistance par un interprète qui a donné lieu à un arrêt du 20 mars 2024. La première chambre civile a jugé que, lorsqu'il constate que l'étranger a indiqué au début de la procédure administrative ne pas comprendre la langue française, ou que, contrairement à ses déclarations, il ne comprend pas le français, le juge doit accomplir toute diligence pour permettre à l'étranger d'être assisté d'un interprète en recourant, si nécessaire, à des moyens de télécommunication ou en reportant l'audience si le délai pour statuer le permet. Et si le juge est confronté à une impossibilité de recourir à l'interprétariat, l'audience ne peut pas se tenir et le juge doit alors ordonner la main levée de la mesure de rétention. Enfin, je souhaite évoquer la déclaration d'appel, car, à la différence du droit commun, de la procédure civile, le CESEDA pose comme exigence que cette déclaration soit motivée. L'absence de motivation de la déclaration d'appel est un cas d'appel manifestement irrecevable que le Premier président peut constater sans audience. Le 15 juin 2022, la première chambre civile a jugé que le Premier président ou son délégué ne pouvait constater l'irrecevabilité d'une déclaration d'appel comme étant non motivée que si celle-ci était dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence. Là encore, la Cour veille à un équilibre. Si cette règle de l'irrecevabilité facilite le travail des juges dans un contentieux abondant où les délais sont contraints afin qu'ils puissent se consacrer aux requêtes sérieuses, dès lors que ces dernières sont motivées, il leur faut les examiner, cet examen pouvant conduire à leur rejet.
Je suppose que le contentieux des étrangers est propice aux questions prioritaires de constitutionnalité.
En effet, la première chambre civile est assez régulièrement saisie de QPC dans cette matière, où des droits fondamentaux sont en jeu. Elle en a transmis plusieurs au Conseil constitutionnel. Ainsi, le 2 octobre 2019, elle a jugé sérieuse la QPC portant sur l'absence d'assistance de l'étranger par un avocat lors des auditions réalisées par l'administration avant le refus d'entrée en France ou pendant le maintien en zone d'attente. Toutefois, le Conseil constitutionnel a, le 6 décembre 2019, rendu une décision de conformité à la Constitution, après avoir en particulier retenu que ces auditions n'avaient pour objet que de permettre de vérifier que l'étranger satisfaisait aux conditions d'entrée en France et d'organiser à défaut son départ, et qu'elles ne relevaient donc pas d'une procédure de recherche d'infraction. Il a également mis en évidence que l'étranger pouvait être assisté d'un avocat dans le cadre des instances juridictionnelles relatives à de telles mesures. Par ailleurs, le 16 décembre 2021, une QPC a été transmise concernant le délai de 4 jours prévu à l'ancien article L222-1 du CESEDA, à compter duquel le placement d'un étranger en zone d'attente ne peut être maintenu sans autorisation du juge judiciaire, délai qui pouvait apparaître comme excessif. Mais le Conseil constitutionnel, le 17 mars 2022, a décidé que les dispositions de cet article étaient conformes à la Constitution. Plus récemment, le 28 février 2024, la première chambre civile a transmis une QPC portant sur les dispositions de l'article L813-13 du CESEDA, qui, à la différence de l'article 64 du Code de procédure pénale relatif à la garde à vue, n'impose pas à l'officier de police judiciaire de mentionner dans le procès-verbal de fin de retenue les heures auxquelles l'étranger a pu s'alimenter. Le 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a rendu une décision de non-conformité avec effet différé de l'abrogation au 1er juin 2025. Il a considéré qu'à partir du moment où la retenue pouvait atteindre une durée de 24 heures, le fait que l'article L813-13 ne prévoit pas de faire figurer au procès-verbal de mentions relatives aux conditions dans lesquelles l'étranger a pu s'alimenter pendant cette mesure, ne permettait pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté s'était déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Enfin, le 11 septembre 2024, la première chambre civile a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur la modification apportée par la loi immigration du 26 janvier 2024 à l'article L743-12 du CESEDA, qui conditionne désormais la mainlevée du placement ou du maintien en rétention à la démonstration que l'irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, droit dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il a été retenu en particulier que ces nouvelles dispositions n'avaient pour effet de porter atteinte ni à l'office du juge, gardien de la liberté individuelle, appréciant souverainement l'atteinte aux droits de l'étranger, ni au recours juridictionnel effectif, ni aux droits de la défense, ni au principe d'égalité devant la loi et la justice.
Pour terminer, quelles sont les décisions d'actualité sur lesquelles vous souhaitez attirer l'attention ?
Le 15 novembre, la première chambre civile a examiné une demande d'avis sur l'application de la loi dans le temps des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 qui ont allongé d'un à trois ans la durée de l'OQTF pouvant servir de fondement à un placement en rétention. Par ailleurs, elle examinera le 7 janvier 2025 une demande d'avis, toujours sur une modification introduite par la loi précitée, qui a fait passer de 48 heures à 4 jours le délai dans lequel l'administration doit solliciter le juge pour une première prolongation d'une mesure de rétention. La question portant sur le mode de computation de ce délai, question technique mais aux conséquences pratiques importantes. Enfin, je rappelle que la première chambre civile se prononcera prochainement sur la nouvelle condition d'ordre public permettant la prolongation de la rétention administrative introduite par la loi immigration du 26 janvier 2024.
Comme vous pouvez le constater, le contentieux des étrangers est une matière riche qui amène les magistrats des juridictions du fond et de la Cour de cassation à résoudre des questions techniques variées et régulièrement renouvelées. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous en début d'année prochaine pour le prochain épisode des Rendez-vous civils.